nous sommes maintenant avec Mayan Garlinski, donc qui a concocté ce quatrième forum d'anthropologie visuelle qui commence demain soir, hein, avec une série de films. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous définir quel était l'objectif de cette présentation ? Puisqu'elle regroupe, il y a en même temps, bien sûr, des films, il y a aussi, en parlant de documentaires, mais en même temps, des œuvres d'artistes que vous appelez sculptures éphémères, celles de Romain Steiner, vous allez en parler, mais qui sont aussi des performances artistiques.
Oui. Alors, tout d'abord, bonjour. Alors, l'idée de base, c'était de parler indirectement d'un phénomène, de la catastrophe qui est, disons, la... certaine manière, la protection. Et si on parle de catastrophe et de la protection, il y a toujours une avalanche qui passe à côté. Si on fait un barrage, ça passe à côté. Alors il y a l'essai de l'homme de se protéger contre les catastrophes. Les catastrophes arrivent néanmoins. C'est un travail de Sisyphe. Et à partir de ce moment-là que j'ai vu cette relation indirecte-directe, je me suis posé la question si on pouvait éventuellement mettre un programme de cinéma au musée d'ethnographie à Karl Vogt avec des interprétations de ce mythe de Sisyphe. Et effectivement, c'était une opération qui était fascinante, c'était une vraie recherche de fond, à travers le temps, à travers les continents même. Et finalement, on peut présenter à partir de demain jusqu'à dimanche une sélection de 23 films, du court-métrage au très long film, du film expérimental à la grande fiction, du film documentaire au film témoin. Et si on parle des films témoins, c'est un terme peu utilisé, mais ça... décrit des installations vidéo qui étaient mémorisées dans le temps à travers des outils d'audiovisuel. Et on a le grand plaisir de présenter dans le hall d'entrée plus que 30 ans de travail d'un artiste suisse né à Appenzell, de Roman Signer. Et là, on va présenter sur moniteur dans le hall ces travaux que nous appelons éphémères, que c'est pas une désignation de notre part, mais ça vient de Roman Signer lui-même, parce que bien sûr ces actions, ces travaux sont liés à un moment donné. Ça,
ce sont des performances artistiques.
Il essaie de pas parler de performances artistiques, mais bien sûr, ce sont des performances d'un artiste, mais ce sont des sculptures qui sont liées à un moment donné, dans un temps donné et dans un lieu donné. Et pour les éternaliser d'une certaine manière, lui-même, sa femme et ainsi d'autres réalisateurs ont documenté ça, et c'est fantastique parce que la plupart de ces travaux sont présentés en muet. Alors ça, c'est presque une grande exposition sur sur une place minimaliste.
On a vu plusieurs. Vous ne voulez peut-être pas dire le mot, mais à cette époque, on les appelait performances. Quand il y avait, par exemple, une manifestation pour un musée d'art moderne et contemporain à Genève, il y a plus d'une dizaine d'années, et justement, quand Romain Signer était venu, est-ce que la volonté est de, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de pérenniser la performance, c'est-à-dire de la fixer sur pellicule pour qu'elle ait une vie après le moment où elle s'est déroulée?
D'une certaine manière, oui. Ça permet aussi aux gens qui ne sont pas présents sur lieu de les voir. De l'autre côté, Roman Signer distingue bien les performances, alors, ou les actions qui se passent devant le public, en présence du public. Ces dernières années, il fait de plus en plus des travaux pour lui-même, sans public. parce que bien sûr, il se met aussi en danger dans cette histoire et l'aspect de la présence du public est une lourdeur en plus.
On demande aussi, par exemple, des autorisations dans certains cas pour que la démonstration puisse avoir lieu en public, pour que le public ne soit pas blessé.
Bien sûr, bien sûr. En tout cas, ça permet aussi de voir ces travaux qui sont souvent réalisés en solitude. Et c'est pas seulement le moment quand il utilise le dynamite, par exemple. C'est pas le moment de l'explosion qui est important, mais c'est tout ce processus avant et l'effet après. Alors c'est beaucoup plus large et c'est une sorte de condensation et on peut entrer si les gens viennent pour ce festival, ils peuvent pendant 4 jours découvrir chaque jour un autre volet à partir de 1975 jusqu'à 2006, et là on peut découvrir vraiment ces travaux dans une intensité et extension assez rare.
Vous avez donné donc ce titre de Sisyphe au cinéma, en citant aussi donc ces exemples, le pan de rocher tombé sur l'autoroute du Gothard, ou des catastrophes. Est-ce que, avec cette comparaison avec Sisyphe, vous voulez aussi peut-être nous dire que l'homme sort d'une catastrophe, se relève d'une catastrophe en attendant la suivante?
Oui, d'une certaine manière. On ne peut pas les éviter. Donc alors, il faut affronter aussi certaines réalités. Et si notre travail nous semble de temps en temps très proche du travail de Sisyphe, c'est comme ça.
Vous avez présenté donc plusieurs films qui font appel à différentes techniques. Il y a aussi, tout d'abord, nous pourrions peut-être parler de ce film d'animation de Marcel Jankovic, dont le titre est justement Sisyphus.
Alors, bien sûr, pour ouvrir le festival demain à 18h, c'était clair que, si possible, on a un film qui porte directement Sisyphe dans le titre. Mais même si ce film ne portait pas Sisyphus dans son titre, je crois qu'on aurait gardé ce film comme premier film parce que c'est vraiment une visualisation de l'effort de Sisyphe d'une manière artistique étonnante. Je ne veux pas dire trop sur ce film, il dure 3 minutes, mais la fin est assez étonnante.
Et comment, quelle est la distinction que vous faites en tant qu'anthropologue, spécialiste d'anthropologie visuelle, avec les documentaires, la fiction? Il y a bien sûr une question d'authenticité, de mise en scène. Comment percevez-vous ces différentes distinctions?
Tout d'abord, ce sont des distinctions qui sont faites a posteriori, après. Je ne crois pas qu'un réalisateur se lève le matin et dit « Aujourd'hui, je vais faire un film documentaire ou je vais faire un film de fiction. » Mais il a un film en tête qu'il aimerait bien réaliser. Et donc, ces catégorisations aident nous à classer certaines choses, mais ils ne sont pas inhérents dans le film. Et le problème, souvent, c'est qu'une fois, quand on est dans une boîte, là-dedans, disons, boîte film expérimentale, ces films sont vus par des gens qui s'intéressent aux films expérimentaux, mais souvent pas par d'autres, parce qu'ils sont cloisonnés. Alors, notre intention, c'était aussi d'ouvrir ce cloisonnement. Bien sûr, ce sont des choses complètement différentes, et on n'a pas du tout... on a essayé d'être très à jour, mais on présente un petit panorama des films autour du mythe de Sisyphe, ou qui interprètent à leur manière des aspects du mythe de Sisyphe, mais on ne peut pas prétendre d'avoir de présenter la totalité des films sur Sisyphe. Ils sont trop grands, et de l'autre côté, certains films qu'on a voulu obtenir, on n'a pas obtenu, parce que au musée d'ethnographie, on a la possibilité de présenter le 16 mm par exemple, mais pas le 35 mm pour des raisons de l'espace.
Vous avez fait un choix qui laisse une grande place à l'expression artistique, puisque nous avons déjà parlé de Romain Signer, mais il y a aussi des films de Duchamp, par exemple. Est-ce que c'était une volonté, parce que nous avons parlé des films un petit peu documentaires, films d'animation, de justement garder une place importante pour des artistes comme cela?
Oui, et c'est... Pour une raison très simple, je crois que les artistes sont ces gens qui regardent notre vie d'une manière particulière et c'est enrichissant. Et je crois qu'il faut s'ouvrir aussi en tant d'ethnologue au monde de l'art sans oublier le monde, disons, du documentaire non plus.
C'est en dehors des artistes, il y a donc aussi beaucoup de films qui viennent, notamment par exemple de l'Orient. Je pense aussi bien à des réalisateurs japonais comme Kaneto Shindo, mais en même temps des réalisateurs iraniens ou d'autres d'ex-Yougoslavie, d'ex-Union soviétique. Est-ce que vous avez voulu nous montrer un regard différent sur la société plutôt que de prendre des films plus occidentaux?
Disons, j'ai pas choisi selon les pays. C'est plutôt les films qui se sont offerts et après on peut constater que par exemple il y a seulement un film d'Afrique, qu'il n'y a aucun film de l'Amérique latine. Mais je dirais c'est lié aussi aux différents phénomènes. Le premier c'est que, bien sûr, ce mythe est un mythe grec, alors à la jonction entre l'Asie et l'Europe, alors il est fortement lié à ces deux continents, si on veut dire. De l'autre côté, c'est pas pour rien que Kafka était un Tchèque de Prague, et c'est pas par hasard que beaucoup de films vient de l'ex-Europe de l'Est. Avec le système soviétique, on se trouvait effectivement très fort dans une situation de Sisyphe. Et le recours à la mythologie grecque était une possibilité de outrepasser la censure et de faire une critique au système. Mais de temps en temps, les censeurs ont remarqué l'intention, par exemple, le film Rémi Bébia, Ma grand-mère, de Konstantin Mikhaberits de 1929, il était pendant plus que 50 ans fermé sous la censure. Il y a eu dans l'Ouest quelques copies, mais il était censuré jusqu'à, je crois, 76.
Ils ont quand même été conservés, puisque vous en avez une copie.
Oui, alors là on a, bien sûr c'était conservé, mais c'était pas accessible.
Alors rappelons que ce film, on peut le voir, c'est donc vendredi 30, ça sera à 17h par exemple. Il y a d'autres regards qui sont par exemple sur les États-Unis et qui sont là non plus pas réalisés par des Américains mais justement par un Iranien. Et vous avez tenu à ce sera Man Pushkart qui sera donc présenté demain à 20h30. Et est-ce que vous avez aussi tenu à cette volonté du monde occidental vu justement par un regard différent?
Disons, je dois vous un tout petit peu corriger, Ramin Bahrani, il est né aux États-Unis, mais d'origine iranienne. Mais bien sûr, disons, si on est né aux États-Unis dans une famille iranienne, on a déjà un regard extérieur. De nouveau, c'est le contenu du film, la façon de faire le film qui nous a convaincus de présenter, mais c'est pas forcément l'origine du réalisateur qui nous pousse. Parce que dans la sélection, on essaye toujours de choisir des œuvres où il y a un enjeu entre le contenu et la forme. À mon avis, le meilleur sujet, quand il est maltraité, ne sert à rien, et une excellente forme, son contenu, me fatigue.
Sur d'autres qui ne sont pas véritablement des catastrophes, mais plutôt des drames humains, il faudrait parler, je crois, vous tenez beaucoup à ce film, donc je ne peux pas prononcer en iranien, mais dont le titre traduit, c'est « Les tortues volent aussi ».
Oui, de Bahman Ghorpadi, c'est là on se trouve effectivement dans l'absurdité. Pour une fois, je parle vite un peu du sujet. Ce sont des réfugiés, des enfants qui se sont organisés, et ces enfants dans un village du Kurdistan irakien, à la frontière de l'Iran et de la Turquie, s'organisent en cherchant des mines, en déminant des champs pour gagner un peu de l'argent, et ils vont ces mines qu'ils ont trouvées au marché, et bien sûr là ils sont rachetés mis de nouveau, utilisés de nouveau comme mines. Donc alors là on se trouve effectivement dans cette folie guerrière, mais ce film ne parle pas seulement de ça, c'est une grande fiction, mais là c'est effectivement la même chose. C'est une fiction, mais ça pouvait très bien passer comme un documentaire. Et c'est à cause de ça que je crois qu'il faut aussi jouer sur cette ouverture entre les formes, parce que finalement, c'est souvent les films de fiction qui nous apprend éventuellement ou qui nous présentent une réalité beaucoup plus pertinente que de soi-disant documentaire bien intentionné. Mais là, on a aussi des limites dans le documentaire.
Et quel conseil donneriez-vous à nos auditeurs pour suivre ce forum d'anthropologie visuelle, pour quelqu'un qui ne serait ni anthropologue ni ethnologue et qui pourrait avoir l'impression d'un grand forum et d'une succession de films très intellectuels? Il y a aussi donc un panachage entre le cinéma expérimental. Je pense aussi à ce travail d'Isabelle Dehaye, qui est donc une vidéaste. Nous avons... On a parlé tout à l'heure de Marcel Duchamp, il y a aussi Tarkovsky. Il y a véritablement différents regards à proposer.
Alors, on a essayé, en programmant, on a essayé de respecter aussi le public, dans le sens que on peut s'imaginer que les gens, même s'ils veulent, ne peuvent pas forcément venir pour 4 jours. Alors, on a essayé chaque jour d'avoir... des différents regards. Alors c'est pas seulement un jour où on a par exemple tous les documentaires et l'autre jour on a tous les fictions et le troisième jour on a tous les films d'animation et le quatrième tous les films témoins. On a mélangé. Donc moi je propose carrément de commencer le jeudi, de voir à partir de 18h jusqu'au troisième film qui commence à 20h30, de voir ces 3 films,
oui, il y en a
de s'imprégner. Et après de revenir, de choisir éventuellement d'autres films, mais c'est vraiment prévu comme une sorte de grande ouverture, mais où on ouvre directement aussi sur les différentes chants, sur les différentes formes. Et après, il y a bien sûr des films lesquels on peut très très rarement voir. Et je dois quand même revenir sur Rémi Bebia ou sur Hadako no Shima, alors l'île nue, ou même sur Sunano Onna. Ce sont des films que vous voyez très rarement. Rémi Bebia, c'était très très difficile de l'obtenir, cette copie. Mais aussi, bien sûr, Anémique Cinéma de Marcel Duchamp, grâce à la DVD, on peut le trouver sur le marché. Mais là, on a une copie 16 mm. Et les gens qui aiment le cinéma vont immédiatement comprendre que un film présenté en 16 mm est différent même d'une DVD. Et les autres qui connaissent pas forcément ces différences, je les invite de découvrir ces œuvres sur grand écran, et on a toujours choisi la version du format original. Alors si c'était tourné en 16 mm, de présenter les films en 16 mm.
Il y a aussi des démarches particulières, je pense à ce film russe qui chute, où Victor Kosakowski a filmé pendant une année ce qui se passait sous une fenêtre.
Oui.
C'est une démarche particulière.
C'est effectivement très particulier, ça, mais c'est très intéressant de suivre ce film. Qu'est-ce qu'on peut voir si on observe d'un appartement pendant une année les choses? Bien sûr, c'est pas le film Sleep de Andy Warhol, ouais. Mais disons, d'une certaine manière, la démarche est un peu semblable. Et vous passez une année en regardant cette rue... Et les événements, et je crois que c'est un regard très pertinent sur ce qui passe à Saint-Pétersbourg, ce qui passait à Saint-Pétersbourg en 2002.
Et bientôt 17h, Marine Garlinski, voudrait quand même dire un mot sur un film que je ne m'attendais pas à voir dans ce programme. C'est celui, vous l'avez vous-même dit, anti-Sicile, c'est celui de Roman Opalka.
Oui. C'était complètement par hasard que je suis tombé sur ce film, respectivement sur Roman Opalka, que j'ai connu après l'exposition 02, parce qu'il a présenté quelques tableaux à Meurin. Et tout d'un coup, je découvre avec Anti-Sisyphos ce travail, ce personnage. Et pour moi, c'était clair d'intégrer ce travail, qui est un travail très très particulier, parce que en 1965, Roman Opalka travaille à l'œuvre de sa vie intitulée Opalka 1965 à l'infini. Et il commence avec un, et au moment que le film est terminé, il a passé. Les 5 millions a été franchi. Et en contrepartie, on présente le film de Roman Signer, sur Roman Signer, réalisé par Peter Liechti, qui est un excellent film. Et là, on a les deux démarches.
Alors, Jan Garlinski, donnant quelques précisions, c'est donc à partir de demain soir jusqu'au dimanche 1er avril. Rappelons rapidement que la sélection compte 23 films du grand classique, vous l'avez dit tout à l'heure, Suna Nona, mais surtout le plus court fait 3 minutes et le plus long, c'est celui de Tarkovsky qui fait presque 3 heures. C'est cela. Hein. Donc c'est au musée d'ethnographie, c'est au boulevard Karl Vogt et jusqu'à dimanche. Et je crois qu'il y a plusieurs systèmes. La carte pour voir tous les films n'est pas très chère, elle est un peu plus de 20 francs. Hein.
Oui, elle est très bon marché.
Merci Marianne Garlinski.